Bon, bonjour. Donc, la semaine dernière, j'avais plus ou moins terminé avec la possible déception de mon ami Frédéric Gage quand lui et ses collègues ont pu constater que l'augmentation de l'insertion de transposons au niveau de l'hippocampe, vous avez ces éléments mobiles qui sautent, chez les petits qui avaient subi un manque de soins maternels, n'était pas lié à une augmentation de la neurogenèse. Il n'y avait pas plus de prolifération de cellules, même s'il y avait plus de transposition. Donc ça le gênait beaucoup parce que pour Gage et consorts, il y a un lien entre la division et la rétrotransposition. C'est-à-dire pour lui, un élément mobile ne peut se mettre dans un génome que si la cellule se divise. Donc moi, je ne pense pas que ce soit absolument nécessaire. Mais eux pensent que c'est nécessaire parce qu'ils imaginent que la pénétration du complexe, vous savez, le messager, et puis les 100 protéines ORF1P et la protéine ORF2P, qui font un gros complexe de messagers et protéines, ne peut pas rentrer dans le noyau sans qu'il y ait une coupure, une dislocation de la membrane nucléaire, parce que c'est très gros. Et donc, de ce fait que la dislocation, elle se fait au moment de la prolifération cellulaire. Quand la cellule se divise en deux, le noyau, évidemment, se dissout, pour ainsi dire. Bon, moi, je ne suis pas sûr que ce soit le cas, parce que les protéines ORF1P, comme les protéines ORF2P, ont ce qu'on appelle des signaux d'adressage nucléaire, c'est-à-dire qu'elles peuvent aller indépendamment dans le noyau, grâce à une séquence qu'on appelle NLS, localisation nucléaire, et qu'on peut imaginer qu'elle se réassocie à l'ARN après être passée à travers la membrane, qu'elle n'a pas forcément à y passer, associée au messager. Donc, je pense que c'est une affaire qui est à suivre. C'est important parce que si on ne pouvait pas rétrotransposer en l'absence de division cellulaire, ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas rétrotransposer dans une cellule post-mitotique qui ne se divise plus, donc dans une cellule neurale, neuronale par exemple. Alors, je pense, enfin, les travaux de mon laboratoire laissent supposer qu'on peut en fait rétrotransposer dans un neurone. Voilà. Donc, avant d'en venir à la protéine TX2, qui est un facteur de transcription de la classe des protéines à homélomènes, dont je vous ai souvent entretenu, je vais y arriver à travers deux articles de Eric Nessler. Avant, juste ça, je vais un petit peu rediscuter l'enjeu de la neurogenèse adulte, en particulier chez les humains. Vous avez vu qu'elle était, la semaine dernière, je vous ai raconté que ça avait été contesté par un certain nombre de groupes, dont celui d'Arturo Alvarez-Bouillard. Et évidemment, c'est embêtant parce que pour plusieurs équipes, et en tout premier plan, une équipe qui est aujourd'hui à Columbia University, qui est dirigée par René Haine, qui est un Strasbourgeois qui est parti à New York, il y a un lien entre la neurogenèse adulte, au niveau de l'hippocampe en particulier, qui est une structure très importante, hein, et la dépression. Donc je vais vous renvoyer à une revue, qui est cette revue-là, en fait, qui est la revue de récente, 2017, de Hanaker et Haine, donc René Haine. Donc je vais vous résumer les éléments essentiels. Vous savez que l'hippocampe joue un rôle majeur dans les maladies de l'humeur, dans l'anxiété en particulier, dans la dépression absolument, et le lieu d'une neurogenèse non seulement au cours du développement, mais chez l'adulte. Moi, j'en suis assez convaincu, y compris chez les humains, mais ça, c'est notre affaire. Et chez les humains, pour René et pour ceux qui avaient démontré cette neurogenèse chez les humains, donc Gage, dont Friesen, dont Haine, sont environ 700 neurones par jour qui sont ajoutés à l'hippocampe. Enfin, ajoutés, c'est une façon de dire, parce qu'il y en a qui disparaissent. Donc, c'est une sorte de turnover de neurones qui se poursuit jusqu'à la mort. Et d'après les données qu'on avait, en fait, ça ne change pas avec le temps. C'est-à-dire, au cours du vieillissement, on a toujours autant de neurones qui arrivent. C'est peut-être la seule chose qui ne change pas au cours du vieillissement, si René Haine a raison, et s'ils ont raison. Voilà. Donc, ceux qui soutiennent cette hypothèse, évidemment, sont nombreux parce que C'est surtout assez important, je vous dirai pourquoi, parce que, en particulier pour la dépression, par exemple, il y a pas mal de travaux chez la souris qui suggèrent que si on donne un antidépresseur à une souris, l'antidépresseur ne marche plus si on bloque la neurogenèse. Vous savez que même chez les humains, quand vous donnez un antidépresseur, par exemple du type Prozac, à un humain, il lui faut à peu près 3 semaines pour que ça s'améliore. Enfin, pas parfaitement, hein. On ne sort jamais totalement d'un effet déprimé, bon, ça c'est autre chose. Mais si le Prozac est un inhibiteur de la recapture de sérotonine, ne marchait que par la recapture de sérotonine, ça devrait avoir un effet immédiat, parce que bon, c'est un effet immédiat sur la recapture du neuromédiateur. Alors, en fait, s'il faut 3 semaines, c'est probablement qu'il y a des choses de plus long terme qui doivent se mettre en place. Et une des idées, c'est qu'une des choses de plus long terme, c'est justement une activité sur la neurogenèse. Et ça va avec le fait que dans des modèles murins de dépression, alors évidemment, c'est toujours compliqué de savoir ce que c'est qu'une souris déprimée, mais vous allez voir, on y arrive quand même. Quand on arrive, eh bien, si on bloque la neurogenèse, les antidépresseurs qu'on teste chez la souris ne fonctionnent plus. Donc il y a un enjeu médical qui est réel derrière ça, qui est la recherche de molécules qui permettent de lutter contre les états dépressifs. Voilà. Donc chez l'hippocampe, là, il faut le reconnaître, ce n'est pas une structure homogène. Hein. L'hippocampe, là, il est ici, vous voyez, c'est une souris, donc il y a une région dorsale, une région ventrale. C'est pas du tout une. Alors la partie dorsale chez les rongeurs, c'est la partie postérieure chez nous. Alors, on est bipède, hein, on ne marche pas à quatre pattes. Elle est impliquée, enfin pas toujours, elle est impliquée dans la. Elle est impliquée dans l'apprentissage spatial. Et la partie dorsale, par exemple, est hypertrophiée chez les chauffeurs de taxi londoniens. Enfin, ça, c'était avant l'invention du GPS. Parce que maintenant, leur hippocampe est revenu normal. Ils ont le GPS pour se guider. Ils n'ont plus besoin de cette mémoire extraordinaire. Mais c'est vrai, ils en avaient fait des études sur les taxis londoniens. Et on avait trouvé qu'ils avaient un hippocampe énorme. Voilà. À Paris, je ne sais pas, on n'a pas fait la manip, mais bon, c'est peut-être plus difficile de se bouger à Londres. Donc, et l'hippocampe ventral, lui, est associé, et vous avez vu par toutes les connexions qu'il peut avoir, vous voyez ici, est associé au comportement émotif, à la résilience au stress, aux interactions sociales, à l'anxiété, etc. Donc, ce schéma est un schéma un petit peu simplifié, bien entendu. Mais il montre bien, je crois, les projections de l'hippocampe ventral vers des structures qui sont des structures connues pour être impliquées dans la régulation de l'humeur. Vous voyez ici, par exemple, vers le cortex préfrontal médian. Bon, je n'ai pas montré le cortex singulaire, mais indirectement, vous avez vers le septum. Et puis, si vous tombez vers le nucleus accumbens, ce qui est une région qui est assez impliquée, aussi l'amygdale basolatérale. Vous avez des sorties vers ce qu'on appelle le bed nucleus de la stria terminalis. Donc, je ne vais pas vous rentrer trop dans les détails, mais c'est une structure qui est extrêmement connectée avec un très grand nombre de structures qui sont impliquées justement dans ces états, dans des régulations, je dirais, de l'état psychologique, hein, pour faire bref, des animaux, dont les animaux humains, évidemment. Et donc, comme je disais, cet hippocampe ventral et les stress chroniques qu'on peut lui faire subir, qu'on peut faire subir à un animal, sont associés à une diminution de la neurogenèse à ce niveau-là. Et les traitements aux antidépresseurs, comme je vous disais, augmentent en fait cette neurogenèse. Donc, un cours passé, évidemment, s'est penché sur cette question. Je ne vais pas y revenir cette année, nous n'avons malheureusement pas le temps. Mais puisque le cours est consacré aux maladies neurologiques et psychiatriques, je vais quand même mentionner le rôle de l'hippocampe et de la neurogenèse dans la régulation de l'humeur et de l'anxiété. Donc, les protocoles de stress chronique, par exemple, si on soumet un individu à un stress pendant 2 à 8 semaines, par exemple une défaite sociale chronique, un stress léger chronique, une immobilisation chronique, un stress prénatal ou un stress postnatal précoce, comme vous le verrez, comme la séparation maternelle, sur laquelle je vais revenir dans un instant, réduisent clairement la neurogénèse chez les rongeurs, ça c'est montré. Certaines études établissent qu'il en est de même chez les primates non humains. Donc cette perte de neurogénèse affecte essentiellement l'hippocampe ventral, et chez les souris, hein, et est retrouvée toujours pour ceux qui croient chez les patients déprimés. Pareil pour l'anxiété. Hein. Donc chez les rongeurs, si, je répète, si vous bloquez la neurogénèse, vous avez un effet négatif sur les traitements aux antidépresseurs. Donc, je n'ai pas cité le Prozac parce que c'est celui qui est le plus connu. Hein. Beaucoup de gens ont pris, prennent ou prendront du Prozac le plus tard possible, bien entendu. Voilà. Donc, la diapositive suivante vous résume un tout petit peu cette question. Et vous voyez ici, par exemple, que quand on a une neurogénèse forte, alors là, je parle pour les souris, hein, bien entendu, que vous faites une réponse au stress. Vous avez une réponse au stress, bien entendu. Hein, ce n'est pas parce qu'on a une bonne neurogénèse qu'on n'est pas stressé. Mais vous avez des réponses qui sont relativement légères, avec l'anxiété, un petit peu de désespoir. C'est toujours un peu chic, hein, désespoir léger, c'est pas mal. Un peu d'anhédonie, tout ça, et puis ça revient, c'est flexible, ça revient bien. Si vous avez un problème de neurogénèse, écoutez, vous voyez, c'est déjà plus raide, et puis surtout, ce qui est le problème, c'est qu'il n'y a pas de, le retour est plus difficile, c'est-à-dire la résilience, hein, c'est ça la résilience en fait, est beaucoup plus compliquée à récupérer. Et si vous regardez un petit bas, en bas, et c'est là que c'est assez intéressant, c'est que si vous regardez les diagnostics pour identifier des individus qui ont une neurogénèse réduite, hein, et une fonction un tout petit peu abîmée de ce qu'on appelle le dentate gyrus, c'est-à-dire une partie de l'hippocampe, on peut suivre ça par le volume sanguin cérébral, enfin, en fait. Le PET scan, tout ce que vous voulez, et puis des tests psychologiques, hein, cognitifs. Et puis il y a des traitements, évidemment, il y a des traitements. Le traitement, ils doivent tous cibler, évidemment, sur une augmentation de la fonction du dentate gyrus et à travers ça, sur la neurogénèse dans le dentate gyrus. Et donc, alors il y a pas mal de trucs. L'exercice, c'est vrai que la course à pied stimule la neurogénèse. L'apprentissage, les inhibiteurs de réuptake de sérotonine, l'entraînement cérébral, ça c'est un truc c'est de plus en plus compliqué. Et puis c'est surtout ça qui nous intéresse, c'est-à-dire les futurs agents pharmacologiques qui nous permettraient de faire de l'exercice dans notre lit, je veux dire en dormant, plus de pilules et neurogénèse à fond pendant qu'on dort. On se réveille le matin impeccable, quand même formidable. Hein. Plus du tout déprimé. D'ailleurs, quand on est déprimé, on ne se réveille pas le matin. Vous savez, on a envie de dormir le plus longtemps possible pour ne pas affronter les ténèbres extérieures. Alors, l'output, bien sûr, c'est la réparation et la bonne humeur et la joie de vivre jusqu'à la fin. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a donc un enjeu assez fort sur ces histoires de neurogénèse adulte et que cette bataille qui a lieu, qui à mon avis est une bataille. J'espère qu'il y a de la neurogénèse chez l'adulte, voilà, chez les humains surtout. Voilà. Wishful thinking peut-être, mais enfin bon, non, je crois pas. Donc maintenant je vais venir à un modèle que j'avais présenté l'année dernière. Mais vous allez mieux comprendre aujourd'hui son intérêt dans le contexte justement de ces maladies neurologiques et psychiatriques, et dans celui aussi des instabilités du génome, puisque notre but cette année, c'est de montrer le lien qu'il peut y avoir entre l'instabilité génétique et ces maladies. Donc je vais le relier, d'une certaine façon, au travail du groupe de Rusty Gage, sur la rétrotransposition et la séparation maternelle dont je vous avais parlé l'année dernière. Donc, il s'agit de travaux du groupe de Eric Nessler sur le stress postnatal précoce, ses conséquences chez l'adulte et le rôle d'un facteur de transcription qui s'appelle OTX2 dans cette structure très importante qu'on appelle l'aire tegmentale ventrale ou la VTA. Donc avant, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que la VTA. Je vais le faire à travers deux articles de revue qui ont été publiés en 2017 et qui sont assez complets. Et vous voyez ici que la VTA, c'est une structure, en fait, c'est une structure dopaminergique. Donc les neurones de la VTA fabriquent de la dopamine, qui est un neuromédiateur très important. Mais il n'y a pas que de la dopamine. Il y a aussi des neurones qui font du GABA, il y a des neurones qui font du glutamate, qui projettent localement et qui projettent aussi à distance. Donc c'est une structure hétérogène. Donc vous voyez là, par exemple... ça c'est les afférences vers la VTA. Et vous voyez qu'il y a plein de structures dont je vous ai parlé tout à l'heure qui sont des structures très importantes, hein, comme le cortex préfrontal, la latérale, enfin plein de structures qui sont impliquées quand même aussi de nouveau, si vous voulez, dans les états psychologiques, pour faire large, et qui projettent sur les neurones dopaminergiques qui sont ici en jaune de la VTA. Il y a aussi, à l'intérieur de la VTA, des projections entre des neurones à glutamate ou des neurones à GABA. Alors, je rappelle que le glutamate est excitateur, que le GABA est inhibiteur. En tout cas, il est généralement inhibiteur. Il y a des circonstances dans lesquelles le GABA est excitateur. Ça, c'est autre chose. Commencez par les jeunes neurones GABAergiques de l'hippocampe, ou du cortex, d'ailleurs. Et puis, vous avez aussi, ici, des projections sur les neurones à GABA de la VTA qui viennent de ces mêmes régions. Donc c'est une structure qui est beaucoup plus compliquée que ce qu'on lit dans les livres. La VTA, c'est un truc qui fait de la dopamine. C'est pas uniquement ça. Et vous avez aussi les projections de la VTA sur les autres structures. Le nucleus cambens, c'est une structure très impliquée dans les systèmes limbiques. Alors quand je dis système limbique, il faut penser état psychologique, entre guillemets, dépression... anxiété, récompense, addiction, plaisir. Il n'y a pas que les côtés négatifs dans l'addiction. Mais aussi, l'addiction, c'est d'abord un problème de plaisir. Sinon, alors, c'est qu'on est maso. Donc, il y a les projections de ces neurones GABA vers ces noyaux. Vous avez les projections des neurones qui sont glutamatergiques ou qui ont deux neuromédiateurs, et ça c'est des choses qu'on oublie toujours, mais certains neurones peuvent avoir deux neuromédiateurs. Par exemple ici, ceux-là, ils ont du glutamate et du GABA, ils ont la dopamine et du GABA, les verts, qui projettent aussi vers ces structures. Et puis vous avez les neurones dopaminergiques qui vont aller projeter aussi vers le cortex préfrontal médian, et puis PV, c'est-à-dire vers la neurone parvalbumine en fait, et puis vers le nucleus accumbens. Donc une structure qui est plus compliquée qu'on ne croit et des connexions qui définissent beaucoup de circuits qui jouent un rôle très important, en particulier dans l'addiction et dans l'anxiété. Alors, d'autres circuits qui impliquent la VTA sont importants, comme j'ai dit, dans la dépression ou la cognition et engagent des régions un petit peu différentes de celles que je viens de citer ici, mais ce n'est pas très grave. En particulier, l'amygdale basolatérale, j'en ai parlé, le cortex cingulaire et l'hippocampe ventral. Voilà. Donc ces innervations se font par les neurones dopaminergiques, je viens de le dire, mais aussi glutamatergiques et GABAergiques, que, comme je viens de le dire aussi, on a tendance à oublier quand on parle de la VTA. Ça veut dire aussi que la VTA est hétérogène sur le plan des types de neurones qu'elle contient, mais aussi sur le plan de sa compartimentation. Et il y a une mosaïque d'expressions de gènes dans la VTA qui est assez importante. Par exemple ici, bon, j'ai un peu simplifié cette image parce que c'est trop compliqué, c'est juste pour vous donner le principe de la chose. Vous avez des neurones bleus, puis vous avez des neurones rouges, hein, ici, et vous voyez que tous n'ont pas les mêmes propriétés. Des neurones qui sont plus latéraux en général, comme les neurones rouges ici, qui sont plus dans les régions latérales, ça c'est l'axe ventral du système nerveux. Donc l'axe de symétrie du système nerveux, donc là on est dans la région ventrale, Là, on a le milieu du système nerveux, et puis là, la partie gauche, la partie droite. Donc, sur les côtés les plus latérales, de cette façon, vous avez des neurones qui ont des propriétés particulières au niveau de l'expression de messagers qui codent en particulier pour la recapture de dopamine, comme DAT, qui sont absents, par exemple, dans les neurones bleus ici. Donc, vous voyez, même dans les neurones dopaminergiques, vous avez une hétérogénéité de type cellulaire. Et ça, ça a à voir avec les projections. Hein. Parce que vous voyez ici, par exemple, si vous injectez un colorant dans des régions mésocorticales, hein, vous soyez ici dans le cortex frontal, en fait, ou dans le cortex singulaire, eh bien, vous voyez que les projections sont, là où il y a les points rouges, plutôt dans la région paranigrale, hein, là, ça c'est la substance noire, ou dans le parabraca, c'est en fait dans le centre, une petite région de la VTA ici. Mais vous avez la même chose, vous injectez dans la région de l'amygdale, hein, ça sont les noyaux de l'amygdale basolatérale ici, donc vous avez ces projections dans ces deux noyaux aussi, dans ces deux régions. Puis vous voyez que si maintenant vous allez injecter dans le système mésolimbique, hein, ici par exemple c'est la combinse, hein, eh bien vous allez projeter, maintenant vous allez commencer à toucher des régions du noyau interfascicularis qui est un petit peu plus en fait latéral. Et puis maintenant, si vous injectez dans le... C'est la même chose ici, c'est le même système. Vous allez aussi injecter maintenant, vous allez commencer à toucher, là vous êtes dans le striatum donc, ventral, donc vous allez commencer à toucher la substance noire, même si vous êtes encore dans la VTA. Puis maintenant, si vous injectez dans le striatum dorsal, qui est un système purement moteur, alors là vous allez toucher uniquement dans la substance noire et vous allez épargner maintenant la VTA. Donc vous voyez que toute cette région dopaminergique, Et ce n'est pas juste un noyau, chaque cellule, en fait, a ses propriétés particulières. Et donc, il y a une pharmacologie probablement extrêmement précise à comprendre pour savoir comment fonctionnent à la fois les systèmes moteurs et puis les systèmes qui sont non moteurs et qui sont régulés par les neurones dopaminergiques pour l'essentiel. Aussi, évidemment, je viens de vous le dire, par des neurones qui sont GABAergiques ou glutamatergiques. Donc les neurones de la substance noire, qui sont ici, bon, sont ceux, comme vous le savez, qui dégénèrent dans la maladie de Parkinson, mais il y a aussi quelques neurones de la VTA qui dégénèrent aussi dans la maladie de Parkinson. Ça dégénère moins vite, mais ça dégénère quand même. Et donc la notion à retenir à ce stade-là, c'est celle d'une cartographie très précise, hein, des neurones dopaminergiques. En fait, je suis assez convaincu que chaque neurone est un individu particulier. C'est-à-dire que chaque neurone a ses propriétés particulières. Ce qui ne va pas simplifier la vie, sauf que maintenant, on a quand même le single cell sequencing, c'est-à-dire qu'on peut faire du séquençage sur une seule cellule, et donc on pourra avoir quand même la carte d'identité génétique, au moins au niveau de l'expression, en tout cas, des gènes, de chacune de ces cellules, et comprendre comment elles se situent dans un axe antéro-postérieur, mais aussi dorso-latéro-ventral, dans les coordonnées, en fait, de la VTA. Et c'est des choses qui sont probablement extraordinairement importantes et auxquelles on aura accès assez beaucoup mieux dans les années qui viennent du fait de l'amélioration des techniques de séquençage et de leur précision de plus en plus forte. Voilà. Donc, chaque zone de projection... à la fois dans chaque noyau dans la VTA, mais chaque zone de protection vers l'extérieur, mais aussi zone de protection en retour vers la VTA, évidemment, ses propriétés physiologiques distinctes, dépression, cognition, anxiété, motricité, récompense, etc. C'est donc une zone du cerveau qui est extraordinairement importante, joue un rôle fondamental dans la régulation des maladies neurologiques et psychiatriques, si tant est, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, que cette distinction entre maladies neurologiques et psychiatriques, qui a été nouvelle, hein, elle date des années 60, soit encore opératoire. En fait, il y a un gradient dans ces maladies. Je pense pas que... La seule chose qu'on puisse dire, si vous voulez, c'est que les maladies psychiatriques sont plutôt plus précoces, hein, l'autisme, évidemment, et les schizophrénies, évidemment, et que les maladies neurodégénératives sont plus tardives. Enfin, il faut l'espérer, ça dépend des gens. Donc, voilà. Donc maintenant qu'on est un tout petit peu éclairé sur la VTA, je vais revenir sur le travail du groupe de Nessler, qui est un travail qui est un stress prénatal précoce, qui consiste à séparer les enfants de la mère. Donc c'est un stress pour les enfants, peut-être pour la mère aussi. Peut-être pour les enfants, d'ailleurs, on n'en sait rien. Il y a peut-être des enfants qui s'en trouvent mieux, donc, mais ça, c'est autre chose. Ça ne rentre pas dans la manip de Nessler. Elle travaille sur les souris, donc on ne leur demande pas ce qu'elles pensent. Donc, dans cet article de 2017, les auteurs nous rappellent qu'un stress dans l'enfance, et ça, c'est clair, peut induire des risques de dépression en augmentant la sensibilité de l'adulte qui fut un enfant. Hein. Aux événements stressants une fois arrivé à la vie adulte. Donc, la VTA est un, comme je l'ai dit, la VTA là est un noyau dopaminergique qui est impliqué dans la dépression et dans la régulation de l'humeur. Et les auteurs se sont concentrés sur cette structure pour y rechercher des modifications de la transcription du génome. Alors, ils ont fait un RNA-seq, un séquençage d'ARN complet sur la VTA. Bon, sans couper par petits morceaux, ils ont pris la VTA entière. Il aurait fallu faire ça région par région, voire neurone par neurone, ce qui aurait été l'idéal, hein, d'une certaine façon. À la suite d'un stress qui rappelle celui que j'ai décrit la semaine dernière, c'est-à-dire la séparation des petits avec leur mère. Alors, leur modèle est un petit peu plus fin que celui de Gage, parce que Gage, lui, s'était, vous rappelez, il avait pris des mères, il les avait observées. Il avait vu des mères qui étaient sympas et des mères qui n'étaient pas sympas. Il avait dit il y a des bonnes mères, il y a des mauvaises mères. On ne sait jamais lesquelles ce sont. Ça, c'est un autre problème. Mais bon, il a vu que ça avait des effets sur la rétrotransposition au niveau de l'hippocampe. Mais là, c'est un tout petit peu différent. C'est un modèle qui est plus fin parce qu'il distingue deux périodes. Il présente une période qui est de la naissance au 10e jour postnatal. La fin de l'allaitement chez les souris, c'est vers le 20e jour postnatal, 21 par là, ce qu'on appelle le weaning. Donc ils ont séparé entre P2 et P12, postnatal 2 et postnatal 12, et puis ils ont séparé entre le 10e jour de la vie postnatale et le 17e ou le 20e jour, enfin c'est pas une précision extrême, mais bon quand même. Donc il y a deux périodes, si vous voulez. Et puis ils ont regardé qu'est-ce que ça faisait à l'adulte, à la souris qui a souffert pendant son adolescence, quelles sont les conséquences chez l'adulte ? Alors, n'en tirez pas de conclusion sur vous-même, c'est pas la peine. En plus, ce serait pas un bon conseil à vous donner. Et donc, ce qu'ils ont fait pour regarder, c'est qu'ils ont induit chez l'adulte un stress social. Alors un stress social, c'est assez vache, c'est-à-dire, c'est, vous savez, c'est comme les enfants un petit peu fragiles au lycée, il y a toujours un grand crétin qui joue au foot, qui est chef de l'équipe de foot, et si vous ne savez pas jouer au foot, alors vous avez un stress social parce que vous êtes perdant, quoi. Vous allez lire Proust dans un coin au lieu de jouer au foot, pauvre type. Donc, les souris, ils ont le même truc. On leur met un mâle dominant. Il y a des souris qui sont très costauds, hein, un peu plus gros, un peu plus agressifs. Et on met la souris, non pas au contact, parce qu'on les protège, on met une paroi en plexiglas, mais ils peuvent voir le mâle dominant et puis sentir les odeurs aussi. C'est pas drôle. Si vous faites ça à une souris normale, qui n'a pas souffert dans son adolescence, bon, sur le coup, ça lui fait un petit choc, mais elle s'en remet très vite. Elle s'en fout un peu, d'ailleurs. Peut-être même qu'elle se moque du mâle dominant, ça peut arriver. Hein. Mais celles qui ont été malheureuses, qui ont perdu leur moment, mais attention, pas n'importe quand, entre P10 et P20. Avant, ça ne leur fait rien du tout. Si on perd sa mère assez tôt, c'est bien. Il ne faut pas la perdre entre P10 et P20. C'est-à-dire, et puis après P20, on s'en fiche aussi. Donc, il y a quand même une période critique. Vous voyez, c'est la notion de période critique qui est importante là. Je vous ai souvent parlé des périodes critiques pour le cortex dans les années précédentes, pour ceux qui suivent un petit peu l'affaire. Donc ces souris qui sont soumises à ce stress, elles sont vraiment déprimées, quoi. Voilà. Donc, alors voilà, vous voyez ici une souris qui a été normale, quoi. Puis celles-là, elles ont été soumises à un stress, soit tôt, avant la période critique, elles s'en fichent. Hein. Mais celles-là, malheureusement, elles ont été soumises à ce stress maternel de séparation entre P10 et P20. Elles s'étaient habituées à leur mère, peut-être. Hein. Donc, les séparer, c'est plus difficile. Si on est séparé avant d'être habitué à sa mère, tout va bien. Quoi. C'est ça que ça veut dire. Donc, voilà. Donc, elle a un score d'interaction sociale qui n'est pas bon. Ensuite, vous voyez ici, quand on la remet devant la figure du mâle dominant, derrière un plexi, hein, évidemment, elles évitent d'arriver. Toi, les autres s'en fichent. Hein. Mais celles-là, non, elles évitent d'y aller. Et puis, il y a la dépression aussi, c'est-à-dire elles n'aiment plus l'eau sucrée, enfin des tas de trucs comme ça. Elles ne sont pas bien, quoi. Elles sont angoissées, elles sont déprimées. Et elles vont rester toute la vie. Ça, c'est ça qui est vache, quoi. Parce que ça peut durer longtemps. Enfin, chez les souris, ça dure moins longtemps que chez nous. Mais ça peut durer longtemps quand même pour une souris. Hein. 3 ans de déprime pour une souris, c'est quand même long, quoi. Donc, voilà, donc, à quoi c'est lié, ça? Donc, ils ont fait aussi... alors, non, ils ont fait des séquençages d'ARN et ils ont regardé donc, dans la VTA quels sont les messagers qui sont transcrits quand on sépare entre P10 et P20 et ils ont vu qu'il y avait environ 225 gènes dont l'expression est altérée par le stress entre P10 et P20. Et la défaite sociale altère en plus chez les susceptibles, hein, parce qu'il y en a qui résistent, il y a des résilients quand même, ça c'est quand même sympa. Vous voyez, ceux-là, ils ont beau avoir subi le camp, ils s'en fichent. Donc ça c'est costaud, voilà. C'est toujours l'humain et l'animal, c'est toujours un petit peu. C'est pas des machines quoi, enfin n'est pas machine qui veut en tout cas. Donc, ils ont identifié ces bases avec et sans défaite sociale. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'il y a des changements transcriptionnels de longue durée, je vais y revenir, ce qui veut dire qu'il y a des modifications épigénétiques. C'est-à-dire que vous faites un stress pendant 10 jours, et après, toute la vie, vous avez une modification et une expression génétique. Donc ça, c'est important. Il y a un marquage. Chez vous, il y en a pas mal parmi vous qui vont au cours d'édite, j'imagine, et donc l'épigénétique n'a plus de secret pour vous. Pour moi, toujours un peu, mais bon, j'ai du mal à apprendre. Donc, vous voyez dans la diapositive suivante qu'il y a un gène qui bouge pas mal, hein, COTX2, donc le facteur de transcription. Et c'est un facteur de transcription qui est intéressant, parce que c'est un facteur de transcription qui est exprimé très fortement dans la VTA. Très fortement dans la VTA. Il est exprimé très tôt au cours du développement. Si vous retirez OTX2 très tôt au cours du développement à une souris, elle perd la tête. Il n'y a plus de tête. Il n'y a plus d'avant. Mais chez un homme aussi, il fait des anencéphales. Mais plus tardivement, ces facteurs de transcription ont d'autres fonctions et donc ils développent d'autres fonctions, en particulier des fonctions de signalisation. On en a souvent parlé quand on a parlé des périodes critiques au cours des années précédentes. Je ne vais pas en reparler cette année, c'est promis. Mais c'est un gène qui est, chez l'adulte, exprimé dans des régions très très spécifiques et en particulier dans la VTA, très fortement dans la VTA. Et donc si vous regardez un tout petit peu les gènes qui sont co-régulés à la baisse avec OTX2, vous voyez que vous avez tous ces gènes-là, c'est intéressant. Et puis, surtout, vous avez ces COCO-là. Ça, c'est des gènes de régulation. Donc, c'est un pathway, ça, qui est sous le contrôle plus ou moins de TX2. Mais là, ce sont des gènes dont on peut voir qu'ils sont très, très fortement diminués, même quand TX2 n'est que peu diminué. Alors, là, c'est une échelle logarithmique, donc il est plus diminué qu'il ne paraît ici, mais... Vous voyez, tous ces gènes-là, qui sont des gènes cibles probablement de TX2, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail de la différence entre ceux-là et ceux-là, parce que ça nous emmènera un petit peu loin sur les analyses bioinformatiques, mais ce que vous voyez ici, c'est qu'effectivement, ici, vous séparez la mère des enfants, Et OTX2, normalement, baisse au cours du développement son expression dans les neurones dopaminergiques de la BTA. Mais si vous séparez la mère des enfants, vous avez une baisse beaucoup plus rapide. Hein, puis ensuite, ça redevient normal. Donc vous avez une baisse transitoire de la synthèse, de la transcription de ce gène OTX2 qui se traduit par des modifications de la transcription de ces autres gènes que vous pouvez voir ici, qui sont des gènes d'ailleurs assez intéressants. Vous voyez, OTX2 est au top de ces éléments régulateurs. C'est un des éléments régulateurs qui est le plus modifié dans cet état transcriptionnel qui est en fond une signature d'un état dépressif chez la souris. Et donc, OTX2, je vous ai dit, c'est la tête, c'est la frontière mésencéphale-télencéphale, et puis c'est un facteur qui est essentiel à la formation et à la survie des neurones dopaminergiques de la BTA. Donc 70% des cellules, hein, il y a 30% des cellules qui ne le sont pas. Donc cette prédiction de que OTX2, ce facteur de transcription, est un régulateur, et donc est fondée sur la pression forte par le stress, hein, des gènes qui sont listés ici en D, là, sur ces diapositives. OTX2 aussi est diminué, je vous l'ai dit, moins, hein, évidemment, mais de façon significative, parce qu'on est en logarithmique. Hein, donc, en fait, il est diminué, je dirais, de 25 à 30%. Ce qui peut être considérable, hein, une diminution d'un facteur, une expression d'un facteur de transcription de 20%, ça peut être considérable. Il y a des gens qui disent, oh, 20%, c'est rien du tout, mais la génétique, c'est de la physiologie. C'est ce que vous m'avez souvent entendu dire, c'est de la physiologie. 10 à 20%, c'est énorme. Hein. Imaginez que vous soyez obligé de vivre pendant un mois avec une température de 40 degrés, ce qui est 10% de plus que 37 ou 41 degrés, vous allez mourir. D'accord ? Et à 34 degrés, pareil. Donc 10%, ce n'est pas de la blague quand on pense physiologie. Il faut arrêter de séparer la génétique de la physiologie. La génétique, c'est de la physiologie. Et donc, cette diminution, elle est confirmée au niveau de la protéine aussi. Hein, on a des diminutions de protéines. Encore que là, c'est fondé sur de l'imagerie. Il n'y a pas de quantification, donc c'est plutôt de l'illustration, pour reprendre ce que je disais la semaine dernière, que de la démonstration. Mais bon, la démonstration, elle est quand même dans la mesure, si vous voulez, de la quantité de protéines. Et vous la voyez ici. Et donc, vous voyez ici que vous avez à P17, vous avez une baisse. Mais à P70, tout le monde est plus bas. Mais on est pareil chez les stressés et les pas stressés, chez les blancs et chez les bleus. D'accord ? Donc, on peut dire légitimement que les expériences qui sont faites par cette équipe peuvent permettre de former une hypothèse. Hein. En tout cas, cette hypothèse, c'est que la baisse transitoire, et c'est ça qui est important, la baisse transitoire de l'expression de TX2 dans la BTA pourrait être responsable d'une modification à long terme. C'est aussi important d'opposer transitoire à long terme d'un phénotype dépressif via la modification, elle aussi, à long terme, de la transcription de certains gènes, dont ceux que je viens d'indiquer. Alors, il y a COL8A1, c'est un gène du collagène, hein, de type 8, qui est une maladie associée, c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge, hein, pas rien. SEMA3C, qui est une glycoprotéine qui est impliquée dans le guidage axonal. La thrombospodine 4, qui est une protéine d'adhésion impliquée dans les interactions cellulaires et la signalisation. PAX6, hein, qui est un facteur de transcription, lui aussi de la famille des protéines à homodomaine, qui a plusieurs fonctions, mais qui a une fonction majeure, c'est l'œil. Hein. Elle aussi, c'est-à-dire que PAX6, si vous prenez une drosophile jeune et vous surexprimez PAX6 dans un disque embryonnaire qui doit fermer une patte, la patte doit faire un œil. Donc PAX6, c'est ce qu'on appelle un gène maître, entre guillemets, pour la formation de l'œil. Et puis RBP3, qui est ce qu'on appelle la retinol binding protein 3, qui est une protéine des photorécepteurs aussi chez l'œil, qui est synthétisée dans ce qu'on appelle la RPE, c'est-à-dire un épithélium qui est en fait à ce niveau-là et qui synthétise du OTX2 et qui ressemble énormément en fait au plexus choroïde. Et puis OTX2 est aussi très fortement RBP3 donc est sécrété dans la fente entre les photorécepteurs, vous voyez ici, et la RPE. Et la RPE est très impliquée dans la régénérescence des photorécepteurs, en particulier de ce qu'on appelle le segment externe. Donc c'est amusant de voir que ces gènes, et c'est ça qui m'a en fait amusé moi, parce que Je m'amuse assez facilement, hein, comme vous avez remarqué. Donc, que ces gènes sont impliqués dans le système visuel. Ils sont dans la BTA, ils sont aussi des gènes qui sont impliqués dans le système visuel. Et en fait, il se trouve que TX2 est un gène très important du système visuel. TX2 est impliqué dans la RPE, dont je vous ai parlé ici, donc le rétinal pigment épithélium, qui est une sorte d'équivalent pour l'œil du plexus choroïde, en fait, et qui fait aussi du TX2. Et puis aussi dans les cellules bipolaires, qui sont ici, en rouge, qui sont des masses de TX2, lequel est transféré dans les neurones ganglionnaires. Et ce n'est pas impossible que ça parte vers les centres supérieurs, en particulier à travers le LGN, qui est le thalamus dorsal, vers le cortex visuel. Et donc là, je vous renvoie à des travaux qui ont été faits par Dinardo, Hensch et d'autres collègues dans le laboratoire. Enfin, Hensch n'est pas dans le laboratoire, mais Dinardo a son équipe chez nous maintenant. Et donc, l'idée, au fond, est-ce que OTX2 dans la VTA ne jouerait pas un rôle semblable au rôle que joue OTX2 dans l'œil ? Sauf que l'œil, c'est pour le cortex visuel, et je vous ai montré l'année dernière comment on pouvait réparer l'amblyopie, par exemple, en diminuant OTX2 dans le cortex visuel, mais que là, eh ben, ce ne serait pas l'œil qui enverrait, ce serait la VTA. Donc, c'est une idée qui nous amuse un peu en ce moment, sur laquelle on essaye de fantasmer un tout petit peu. Mais on pourrait imaginer, par exemple, qu'il y ait un mécanisme sensoriel qui soit conservé pour une fonction psychologique. C'est-à-dire que la VTA serait l'œil des systèmes limbiques. C'est-à-dire que l'œil envoie au cortex visuel et que la VTA enverrait au cortex limbique, aux structures limbiques. Et donc, ça serait très intéressant parce que derrière tout ça, il y a aussi la notion de période critique. Hein, c'est entre P10 et P20 que ça se passe, et pas avant et pas après. Et pareil, si je ferme un œil chez la souris avant P20, il ne se passe rien, après P40, il ne se passe rien, mais entre P20 et P40, je peux développer une maladie qui s'appelle l'amblyopie, tout bêtement. Et si c'était vrai, cette histoire, et si on pouvait creuser ça, ça voudrait dire qu'au fond, il y aurait un mécanisme sensoriel qui serait conservé pour une fonction psychologique. Et ça nous autoriserait, et c'est là que c'est important, évidemment, à utiliser les systèmes sensoriels pour rechercher des médicaments qui seraient efficaces pour traiter des maladies de l'humeur, voire des dépressions, etc. Donc, cette analogie entre les deux systèmes, on va s'amuser à la creuser, hein, dans notre équipe et dans l'équipe d'Ariel dans les années qui nous restent, ça c'est à voir, donc on verra. Donc l'hypothèse d'un rôle de TX2 dans la période critique qui se jouerait au niveau de la VTA maintenant a été testée par ces auteurs là de façon qui est relativement ingénieuse, je trouve, qu'en tout cas moi j'ai bien aimé. La première, ça a consisté à surexprimer OTX2. Alors, il y a des virus qui sont très sympas. Il y a des virus qui permettent d'exprimer un gène très rapidement après l'introduction du virus dans le système et pour une période très courte. C'est-à-dire que 2 jours après que le virus a infecté la cellule, le gène est exprimé et 7 jours après, il est éteint. Donc ça, ça nous permet d'avoir exactement la durée quasiment de la période critique. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé ce virus, qui est un virus de l'herpès, hein, c'est un herpès simplex, un HSV, et ils ont cloné OTX2 dans le HSV, ils ont infecté les neurones dopaminergiques avec le virus, et qu'est-ce qui se passe, hein? Ben, il se passe que c'est pas mal, parce que là, ils ont pris une souris qu'ils ont stressée, hein? Alors, vous voyez que si je compare le standard et le lait, là, oh là là, je suis très déprimé, hein? Mais si maintenant je surexprime OTX2 dans la période P10-P20, qu'est-ce qui se passe? C'est que chez le standard, alors là j'ai un boom d'interaction sociale, hein, même chez le normal, avoir plus d'OTX2, ça rend affectueux. Enfin, si les interactions sociales sont de l'ordre affectif, parce que des fois ça peut être plus dur que ça, mais bon. Mais si je le fais chez un soi-disant déprimé, vous voyez que maintenant il a le niveau d'un normal. Donc en fait, je peux séparer la mère du petit, mais si quand je fais ça, je leur balance du OTX2, tout va bien. Comme quoi, l'amour, des fois, ça se résume à peu de choses. Un peu plus, un peu moins d'OTX2. Ça ramène les choses à leur juste proportion. Donc on peut aussi faire ça chez l'adulte. Alors un adulte qui a été déprimé, hein, voilà quoi. Et on lui balance quand même du OTX2, et ben, ça le remet en forme. Donc c'est réversible, donc ça c'est la bonne nouvelle. Et quand je vous parlais de thérapie fondée sur ce genre de molécules, il y a peut-être là quelque chose qui est intéressant à creuser. Bon, on peut regarder aussi au niveau des gènes dont j'ai parlé, de tous ces gènes cibles. Alors on peut voir les modifications qui se produisent. Elles ne sont pas toujours magnifiques pour connaître. Voilà. Alors il y a autre chose aussi qu'on peut faire, c'est ne pas séparer le petit de la mère, mais lui diminuer son OTX2 pour voir. Alors ça, c'est pas bon. Vous voyez, donc on peut remplacer la séparation de la mère par une diminution de TX2. Comme quoi, finalement, ouais. Enfin bon, je vais pas continuer, vous avez compris ce que je pense. Donc, vous voyez que, en fait, ce petit-là, à qui on a retiré de TX2, mais on a laissé sa mère, eh ben, c'est comme si on lui avait retiré sa mère. C'est-à-dire que ça va pas, quoi. Vous pouvez aussi faire ça chez l'adulte. Alors au bout d'une semaine, il est quand même pas bien, mais il récupère. Au bout de 6 semaines, ça va mieux. Hein. Donc ça c'est intéressant parce que ça montre quand même des éléments de plasticité dans le système qui sont assez forts. Oui, c'est moi je trouve ça extraordinairement intéressant. Par gain et perte de fonction, on arrive quand même à l'OTX2. Pendant la période critique ou chez l'adulte, on arrive quand même à modifier, si vous voulez, l'état psychologique de votre animal. Alors, où est-ce que j'en suis ? J'ai toujours un moment où je perds tout, comme vous avez remarqué. Hein. Donc, cette diapositive, oui. Elle vous donne les conclusions de ce travail, qui sont des conclusions que je pense être des conclusions très importantes, parce que ces données établissent qu'une perte transitoire de TX2 dans la VTA juvénile est nécessaire et suffisante pour augmenter la sensibilité au stress chez l'adulte. Et il y a donc une période sensitive, une période critique au cours du développement postnatal, avec des effets moléculaires et comportementaux de longue durée. Et là, vous voyez tout de suite qu'on va vers la question épigénétique, parce que comment est-ce que quelque chose de courte durée peut avoir des effets de longue durée si il n'y a pas une modification stable au niveau de la structure de la chromatine ou, évidemment, de méthylation des CPG au niveau des promoteurs de certains gènes, voire, évidemment, des modifications de la méthylation des histones, en particulier H3K9. Donc, ça, c'est amusant. Et de fait, si vous regardez ici, dans ces diapositives, il y a ce qu'on appelle des immunoprécipitations de la chromatine. C'est-à-dire que, voilà, ici, par exemple, il y a deux gènes cibles qu'on a pris ici, SMA3C et WNT1, par exemple, qui sont parmi les 8 que je vous ai montrés plus haut. Et donc, là, c'est voilà le gène. Là, vous avez les sites de fixation possibles. Il y en a beaucoup, de OTX2 en mauve. Là, il y en a moins, évidemment. Et donc, vous pouvez immunoprécipiter vos gènes. Et donc, là, c'est sans l'immunoglobuline, c'est le contrôle, donc. Mais en bleu, c'est un animal stressé, AP21. Et vous voyez que quand l'animal a été stressé entre P10 et P20, eh bien, on n'arrive plus à immunoprécipiter les gènes cibles avec OTX2. C'est-à-dire, c'est comme si, en fait, l'accès des promoteurs ou des séquences de fixation de TX2 sur ces gènes avaient été perdues. On le récupère chez l'adulte, même si l'effet biologique persiste. Donc en fait, il s'est passé quelque chose entre les deux qui est de l'ordre, en fait, probablement d'une méthylation, ou probablement d'une méthylation. Et c'est pareil aussi chez WNT1, vous voyez que chez le jeune, TX2 n'est plus capable de reconnaître le gène, mais chez l'adulte, il le fait. Et néanmoins, chez l'adulte, même si OTX2 est de nouveau capable de réguler la transcription, en tout cas de se fixer sur les éléments régulateurs, l'effet dépressif continue. Donc il s'est installé quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas, mais qui est vraiment intéressant, qui est lié à une activité, une perte très transitoire, en fait, de l'activité de OTX2 au niveau de ces gènes cibles. Donc, ce qu'il va falloir, c'est un travail très intéressant, je trouve. Ce qu'il va falloir, évidemment, c'est comprendre comment une modification provisoire, de l'expression de ce facteur de transcription peut générer des effets comportementaux à long terme. On va le discuter à travers l'analyse d'un deuxième article, alors du même groupe. Mais alors là, c'est vraiment compliqué, le deuxième article. Alors vous allez être très patient, hein, parce que c'est un article clinique, donc c'est mou, hein, c'est des preuves molles. Mais c'est intéressant parce que, évidemment, toutes ces études fondamentales sont extraordinairement excitantes, mais c'est aussi amusant de voir comment ça peut être traduit du côté clinique, parce qu'on ne peut pas s'empêcher, hein, c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs, de se dire, si ma maman avait été plus gentille, j'aurais été moins déprimé, quoi. Ou si elle avait été moins gentille, j'aurais été plus intelligent aussi. Ça, c'est... Il y a toutes sortes de façons de décliner la chose. Il n'y a que des individus dans la nature, donc de toute façon, on est tranquille, chacun a son histoire. Mais il reste que ça vous intéresse de savoir ce qui se passe chez les humains, malgré tout. Ça nous intéresse tous. Donc, on va y réfléchir. Tu as un article qui est aussi un article où il y a beaucoup de co-auteurs, dont Eric Nessler, le même. Ce n'est pas son labo, c'est un labo de recherche clinique. Et c'est un article qui est évidemment très différent de celui que je viens de vous décrire, parce qu'il tâche de faire un lien entre ce qui a été démontré chez les souris et les marqueurs de pathologie chez les humains. Il est centré toujours sur OTX2, à cause de ce que je viens de vous raconter, hein, ça va de soi. Mais aussi à cause des travaux qui démontrent qu'il y a un rôle d'OTX2 dans la plasticité du cortex cérébral, y compris au niveau du cortex frontal médian. Et là, de nouveau, ces travaux de Dinardo et de Hench, comme j'ai pu vous les raconter les années précédentes, je crois. Donc, les auteurs sont intéressés à une cohorte de 157 enfants, 117 familles, hein, donc 1,5 enfants par famille, comme dans tous les pays développés, âgés de 8 à 15 ans, et dont la moitié, 52%, ont subi un mauvais traitement. Et ont été laissés soit à la garde des familles en dépit du mauvais traitement, soit mis en institution pour être protégés dans des camps, en fait, de campagne. Vous savez, en Amérique, on met facilement les gens dans les camps scouts, dans le Montana, quelque part, pour contempler la nature, en espérant que ça va les guérir. Ça ne marche pas toujours. Donc 52% ont subi un mauvais traitement. Et puis, là, vous avez un renseignement un petit peu sur la cohorte qui a été utilisée. Donc, vous voyez, tous ceux-là, ils ont « no history of abuse or neglect ». Donc, ceux-là sont des normaux, pour ainsi dire. Il y a toujours moitié mâle, moitié femelle, plus ou moins. La race, c'est plutôt des blancs, 96%. Et puis, vous avez des histoires d'adversité intrafamiliale. Vous voyez, 27%. Alors, l'extrafamilial, il y a moins d'adversité extrafamiliale. En général, c'est dans la famille que ça se passe mal. C'est comme ça, on n'y peut rien. Mais quand les enfants sont maltraités, c'est souvent dans la famille plutôt qu'à l'extérieur. Donc, si vous ajoutez les deux, voici l'adversity score, 33, 26. Et puis là, c'est le groupe contrôle, 14. Même là où ça se passe bien, il peut y avoir quelques difficultés. Voilà. Et puis ici, vous avez le questionnaire, est-ce que vous vous sentez bien, quoi ? Alors oui, évidemment, ils se sentent moins bien quand il y a eu des problèmes. Là, c'est quand ils ont été placés à l'extérieur, et là, quand ils n'ont pas été placés à l'extérieur, donc on voit qu'il y a... Et puis chez les autres, en général, ça va mieux. Il y a 9% des enfants qui se sentent mal, même dans les conditions dites normales de milieu familial. Et ça, donc on peut regarder un tout petit peu. Alors évidemment, on ne va pas prendre le cerveau pour regarder ce qui se passe à côté X2. Donc c'est là qu'évidemment, c'est un peu compliqué à comprendre comment ça marche. Moi, j'en sais rien du tout. Je ne sais même pas si ça marche. Enfin, ça, c'est pour vous expliquer un petit peu les difficultés qu'on peut rencontrer quand on veut passer sur un plan clinique. Ils ont été prendre donc des cellules de la salive. C'est pas le cerveau. Et puis, ils ont été regardés un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de la méthylation des gènes qu'on avait identifiés chez la souris, hein, COL8A, etc., dans ces cellules périphériques qui sont contenues dans la salive. Il y a des cellules dans la salive, hein, bien entendu. Et donc, la prochaine diapositive vous montre, je vais relativement simplement, il vous montre que il y a pas mal de CPG sur ces gènes. CPG, c'est des doublets cytosine-guanine, et très souvent, les méthylations, qui sont des modifications épigénétiques qui répriment en général l'expression des gènes, sont sur les cytosines des doublets CPG. Alors, dans le cerveau, c'est plus compliqué parce que la CPA, des fois, mais on va en rester au CPG pour l'instant parce que c'est ce qu'il y a de plus classique. Et donc, vous pouvez utiliser des puces à méthylation pour aller regarder quels sont les méthylés. Et en fait, il y a 12 sites qui sont méthylés en moyenne sur OTX2, qui sont des sites associés au phénotype déprimé. Hein, donc ça, ils sont là. Hein. Sur les 31 sites méthylables de TX2, il y en a 12 qui sont en corrélation avec le phénotype méthylé. Et puis, vous pouvez le voir aussi pour les autres gènes, évidemment. Et il y en a un qui est particulièrement sensible, c'est le CPG 237-06-497. Ce n'est pas un numéro de téléphone. Qui est un des deux sites, qui est un site qui est très associé au phénotype déprimé et qu'on trouve aussi dans les cellules de la salive. Alors là, il ne faut pas me demander pourquoi. Donc pour... ça, on voit aussi dans cette diapositive ici, et si vous n'avez pas envie de la regarder, vous n'avez qu'à juste écouter ce que je vous dis, qu'il existe une très forte corrélation entre le phénotype déprimé et la méthylation de ce site. Donc, je reviens maintenant à la table 2, et qui nous donne les gènes identifiés dans l'article précédent. Et il y a aussi, évidemment, TX2 est méthylé sur son 5' UTR, c'est-à-dire la région en 5' sur laquelle se fixe le facteur de transcription qui va permettre la transcription du gène. Si c'est méthylé, ça va être moins exprimé. Hein. Et cette méthylation, elle corrèle aussi de façon assez bonne, pas parfaite, mais assez bonne, avec des méthylations sur les gènes cibles. Et les probabilités que ce soit, c'est en général inférieur à 0,02 pour RBP3, 0,01 pour SEMA3C, 0,01 pour THSV4, 0,01 pour WIND1, encore plus bas pour PAX6. Bon, la relation avec la corrélation pour COL8A est faible puisque la probabilité qu'il y ait une erreur est de 10%, c'est P égale 0,1. Donc les méthylations sont en général sur les introns, les régions non codantes, mais dans le corps du gène. Hein. Et puis, parfois, sur le premier exon, en tout cas dans le cas de PAX6, c'est sur le premier exon du gène PAX6. Les données ont été validées pour OTX2, pour PAX6, parce qu'on appelle le séquençage bisulfite. C'est un séquençage qui permet de voir où sont les groupements méthyl. Alors, je vous ai donné l'année dernière le principe du séquençage bisulfite, donc vous le connaissez par cœur. Ce n'est pas la peine que je vous le raconte de nouveau. De toute façon, tout ce que vous savez, c'est que là, on est sûr que c'est méthylé parce qu'on a fait le séquençage du gène. Donc, on est tranquille. Donc, c'était confirmé. Et puis, alors là, ils ont fait un truc qui est franchement incroyable. Je ne sais pas si c'est vrai. Hein. C'est qu'ils ont fait de l'imagerie cérébrale. Vous vous rappelez, l'année dernière, je vous ai raconté ce que c'est que le fMRI resting state, c'est-à-dire que la résonance magnétique, imagerie par résonance magnétique en resting state. C'est-à-dire que si vous avez ici, au cours du temps, de la consommation d'oxygène que vous pouvez suivre par résonance magnétique, donc vous voyez les formes oxydées et non oxydées de l'oxygène, c'est-à-dire la consommation d'oxygène en fait, par vos tissus nerveux, et vous prenez une autre région où vous avez exactement la même cinétique, quand c'est haut ici, c'est haut ici, quand c'est bas ici, vous voyez ça au cours du temps, c'est que les deux régions sont en connexion, elles parlent en même temps, et donc elles consomment l'oxygène en même temps. Donc en suivant ce qu'on appelle le BOLD, hein, l'oxydation de l'oxygène, on peut, d'une certaine façon, savoir quelle structure parle avec quelle structure. Je vous avais fait ça l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour les singes qui regardaient Le Bon, la Brute et le Truand, le film, et qui avaient les mêmes oscillations qu'un sapiens qui regardait le même film. Vous vous rappelez? C'était assez drôle, cette histoire. Donc, là, c'est dans des régions du cortex qui sont impliquées dans les phénomènes cognitifs. Et donc, je ne vais pas vous embêter trop longtemps avec ça, mais en plus qu'il est 5h et il est 3h02. Mais vous voyez ici, par exemple, que si vous regardez la méthylation de vos OTX2, donc Plus, et puis ici, vous regardez... qu'est-ce qu'on regarde ici déjà? Je ne sais plus. Moi. Je vais vous le dire hein, tout de suite, hein, ce n'est pas trop compliqué. C'est la dépression, c'est les scores de dépression. Hein. Donc, vous voyez ici les scores de dépression et les scores de méthylation. Donc, en fait, moins vous avez de méthylation, moins vous avez de dépression. C'est normal, c'est ce qu'on attend. Mais en même temps, vous avez une corrélation avec la connectivité dans le système nerveux. Alors là, c'est amusant parce qu'on a une augmentation de la connectivité entre des gyrus, le subcalosal, par exemple, du cortex singulaire, le cortex préfrontal ventromédian et la région ventrale du cortex frontal aussi. Donc, il se trouve que ce qu'il faut retenir là, c'est que vous avez des modifications de l'activité d'interaction entre régions cérébrales qui sont liées à des modifications de la méthylation du promoteur de TX2 qui elle-même est liée à des scores de dépression. Donc, on essaye comme ça de faire une espèce de coalescer un état dépressif, un état de méthylation et puis un état de fonctionnement de votre système nerveux central. Alors ce sont des corrélations bien entendu, en plus c'est les TX2 qui sont pris dans la salive, donc ça fait appel à des tissus périphériques pour l'analyse moléculaire et je pense que vous devez concevoir toutes les difficultés qui sont liées à une étude clinique et la prudence maintenant qui s'impose hein, quant aux conclusions qu'on peut en tirer. Bon, les auteurs sont optimistes, mais bon, les auteurs sont toujours optimistes. Ils sont surtout optimistes quant à la possibilité de progresser dans la compréhension. Ça, sinon, il faut changer de métier. Ne serait-ce que d'un point de vue diagnostique ou prognostique. C'est sûr, s'il suffisait de prendre de la salive et puis d'aller regarder la méthylation de TX2 pour dire voilà quelqu'un qui est déprimé, on va lui mettre du Prozac. Ce serait bien. Bon, même si on me trouve des méthylations dans la salive, je ne suis pas sûr que je prendrais du Prozac pour autant. Mais bon, ça, c'est une question personnelle. Donc, en tout cas, ce travail suggère que la méthylation de TX2 sur le numéro 237-06-497, de nouveau, n'essayez pas de téléphoner, ce n'est pas un numéro de téléphone, est aussi associé à des méthylations sur des gènes qui sont partiellement réprimés dans le modèle murin de séparation maternelle. Donc il y a peut-être un lien entre la souris et l'homme, de ce point de vue en tout cas. Et c'est d'assez bons indicateurs d'un état dépressif, d'une certaine façon. Avec en tête de liste Paxis et Wnt1. Alors, c'est dit, Paxis, Wnt1, est-ce que ça a à voir quelque chose avec les systèmes dopaminergiques? Après tout, pourquoi pas? Ouais, on peut le dire, parce que le rôle dopaminergique de Paxis, je le trouve un tout petit peu tiré par les cheveux. Ce qui me concerne, ce n'est pas vraiment un problème, mais... c'est sûr que Paxis est impliqué dans la neurogénèse, mais bon. Celui de Wnt1 est un peu plus crédible, je dirais, parce qu'il joue un rôle dans la mise en place des neurones dopaminergiques du mésencéphale, mais ça, c'est quand même... assez tôt, donc c'est alors à moins qu'on ait un stress prénatal, ça existe. Hein, je vous en parlerai. Il y a des stress prénataux qui sont durs. Bon, mais surtout Wnt1 est un côté plus intéressant, je pense, qui est un gène de plasticité neuronale au niveau du noyau de l'amygdale et au niveau du noyau de l'hippocampe. Donc ça, c'est une autre affaire. En particulier, on voit des modifications de Wnt1 à la suite d'un stress aigu ou dans des protocoles de conditionnement à la peur, ce qu'on appelle le fear conditioning. Pour les données d'imagerie, hein. Alors, le nombre d'enfants qui a été examiné est très, très faible, ça va de soi. Bon, on peut dire que la méthylation de TX2 est associée avec une augmentation de la connectivité entre le cortex préfrontal ventromédian et les régions bilatérales du cortex frontal médian et du cortex singulaire. Donc, les clusters d'interaction les plus forts, significativement différents de la situation contrôle, vous les retrouverez dans le détail dans l'article pour ceux qui sont intéressés. Mais ils sont impliqués quand même, ce sont des clusters d'interaction entre régions corticales qui sont connus pour être impliqués dans la dépression et dans le contrôle cognitif, dans un contexte affectif. Donc, je crois qu'il faut être très prudent. Hein, les auteurs eux-mêmes sont très prudents. Mais je pense que c'est intéressant parce que, vous voyez, on part d'un modèle murin extraordinairement contrôlé, maîtrisé, on peut tout faire. qu'on essaye de voir, avec tout le danger que cela représente, mais aussi tout l'intérêt que cela représente, dans quelle mesure ça peut avoir des conséquences sur notre compréhension de ce qui se passe chez un être humain. Quoi. Donc maintenant, 15h07, je vous donne, je ne sais pas, on va voir. Je tiendrai au moins jusqu'à 15h30, et vous aussi, j'espère. Quand je vois qu'il y en a qui commencent à se lever, je m'en vais. Voilà. Quelles que soient les raisons pour lesquelles vous voulez. Alors, si maintenant je reprends l'affaire de la neurogénèse adulte, hein, parce qu'on est parti de là, hein, la semaine dernière, au niveau de l'hippocampe, depuis cette affaire-là jusqu'à la question de la régulation épigénétique d'OTX2, et par OTX2 lui-même, hein, est-ce qu'on peut tracer un lien, est-ce qu'on peut essayer de tracer un lien cohérent entre des états tels que l'anxiété ou la dépression, avec ces histoires de TX2, de neurogénèse, de lines, d'éléments mobiles, cette soupe-là que j'essaie de faire entrer doucement dans nos têtes. Alors, pour Gage, Rosti, hein, il y a un lien entre séparation maternelle et activation des éléments mobiles, les lines, vous vous rappelez, dans l'hippocampe, la semaine dernière. Donc ça pourrait rejoindre l'idée développée par René Haine sur l'importance de la neurogénèse dans la dépression, ça c'est clair. Mais alors le problème, c'est que Gage et ses collaborateurs n'ont pas vu de différence de prolifération dans l'hippocampe entre les souris normales et ceux qui ont subi une séparation maternelle. Donc là, il y a un hiatus. Voilà. Puisque, comme je vous l'ai dit au début du cours, pour Gage, ça le gêne, parce que pour lui, l'insertion d'un lines nécessite une division cellulaire. Alors, je vous ai dit pourquoi. Moi, je pense que ce n'est pas la peine de se mettre ce fardeau sur la tête. C'est possible que ça se passe mieux quand il y a une division cellulaire, mais on ne peut pas exclure qu'il y ait des insertions dans des cellules qui ne se divisent pas. Et moi, je pense qu'il y a des insertions dans les cellules qui ne se divisent pas. Vous voyez, ce que prétend notre ami Rusty, c'est que, Gage, c'est que ce truc, c'est tellement gros que ça ne peut pas passer. Bon, ben, ils peuvent passer séparément. Et puis en plus, ils peuvent se ressocier après avec le messager, pourquoi pas. Donc, et puis peut-être qu'il y a des mécanismes pour faire passer un truc très gros à travers le noyau. C'est-à-dire, vous savez, en biologie, tout est possible. Il suffit d'y penser et c'est possible. C'est un truc... ne dites pas ça à tout le monde. Ça me ferait une mauvaise réputation. Voilà, moi, je pense que en imposant l'idée que la réplication est nécessaire à la transposition, on se met une contrainte qui n'a pas lieu d'être, en tout cas qui n'a pas été démontrée à ce jour. Enfin, l'histoire qui lie, si vous voulez, le stress, la division cellulaire et la rétrotransposition n'est pas absolument claire. En plus, les cellules dans lesquelles il y a de la rétrotransposition quand il y a du stress, d'après Rusty, hein, Gage, pardon, Frédéric Gage, on l'appelle Rusty parce qu'il avait les cheveux roux quand il était petit. Donc on l'appelait rouillé, Rusty. Maintenant, il a les cheveux blancs ou pas de cheveux, comme tout le monde. Voilà, donc... il y a quelques exceptions qui gardent les cheveux noirs très longtemps, mais ils ont peut-être un truc. Voilà. Donc, on peut essayer de recombiner les deux histoires, celle de Gage et celle de Nestler, pour faire simple. Hein. Donc, pour ça, je vous propose d'oublier la division et de supposer que le stress par séparation maternelle induit une baisse de TX2, ça on en est clair, hein, mais que cette baisse, elle permet une augmentation de l'expression des éléments mobiles. C'est-à-dire que le premier effet de la baisse de TX2, ce serait une augmentation de l'expression des éléments mobiles, que ce soit les lines, les signs, les ERV, etc. Et que cette augmentation des éléments mobiles est à l'origine des méthylations des gènes qui sont réprimés quand TX2 baisse, hein, via évidemment des méthylations des CPG, comme on a pu le voir. Donc, c'est une hypothèse. Hein, si elle est valable, ça veut dire qu'on doit se concentrer sur la VTA, vertèbre mentale ventrale, et supposer que ce qui se passe dans l'hippocampe, y compris les éléments mobiles dans l'hippocampe que Rusty Gage a pu suivre, est une conséquence de ce qui se passe dans la VTA. Hein, et via peut-être les projections directes entre la VTA et l'hippocampe, et en particulier l'hippocampe ventral. Donc, ça, c'est une hypothèse qui me paraît assez raisonnable, honnêtement. Mais alors, de nouveau, il n'y a pas de division cellulaire chez la VTA. Autant on a vu de la neurogénèse dans l'hippocampe, personne n'a jamais vu de neurogénèse dans la VTA. Ça ne veut pas dire qu'on n'en verra pas un jour. Vous savez, la biologie, c'est un drôle de truc. Rien n'est vraiment tout à fait vrai et rien n'est vraiment tout à fait faux. C'est la difficulté de notre métier. Alors, climateux, pas de problème. Donc, pour ça qu'on a une science un peu molle pour eux, mais bon. Donc, comme il n'y a pas de division dans la VTA, cela veut dire que les éléments mobiles, dont les lines, qui sont transcrits dans ces neurones, hein, qu'ils soient intégrés ou non intégrés dans le génome, vraiment rétrotransposés en l'absence de division, pourraient jouer un rôle de régulation. En particulier, les ARN régulateurs, quand ils sont transcrits, s'ils jouent un rôle de régulation, ne nécessitent pas une intégration. Bon, à ce moment-là, on peut se demander à quoi sert d'avoir fait un P et un P, mais ça, c'est autre chose. Donc, je n'élimine pas une activité rétrotransposition dans la VTA, bien entendu, pas plus que dans la substance noire, on le verra, et on peut spéculer sur une activité de type ARN régulateur liée à l'expression des lines, elle-même liée à la baisse d'expression de TX2, comme je vous l'ai dit. Voilà. Et donc, vous voyez, dans ça, en gros, c'est un petit peu ça. Par exemple, le rouge, là, ce serait un ARN régulateur, un lines, qui serait transcrit à la suite d'une baisse de TX2. Donc, quand TX2 baisse, paf, j'ai une transcription de mes lines qui vient s'hybrider dans mon gène sur un lines qui est lui-même intégré dans le gène, parce que je vous l'ai dit, il y a quand même 45% du génome qui est lié, qui sont des éléments transposables. Ils sont fossilisés, on en a parlé, ils ne bougent plus, mais ils sont là. Et très souvent, ils sont dans les introns des gènes. Donc, ce line viendrait s'hybrider là et pourrait recruter, si vous voulez, des protéines. Par exemple, ici en gris, ça pourrait être des DNA méthyltransférases, c'est-à-dire des protéines qui peuvent méthyler des CPG, par exemple. Et à la suite de ça, on aurait une modification covalente et irréversible de mon gène, avec des conséquences importantes sur sa transcription, sur son épissage, toutes sortes de choses qui vont faire qu'il va être modifié, peut-être bloqué complètement dans son expression, mais peut-être aussi modifié dans les formes qui seront exprimées. Donc ça, c'est un tout petit peu, si vous voulez, la façon dont on peut voir les choses. C'est une hypothèse, hein, mais ça me paraît une hypothèse raisonnable, hein, qui n'implique pas forcément, j'ai dit, un événement de type rétrotransposition, même si, je le répète, je ne l'exclus pas dans les cellules post-mitotiques. Bon, ça me permet de terminer cette journée en présentant des travaux qui ont été récemment publiés par l'équipe désormais indépendante de Julia Fuchs, qui a travaillé avec moi pendant plusieurs années, pour mon plus grand bonheur, sinon le sien. Et qui ont à voir avec l'expression des éléments mobiles. Elle est là, Julia ? Oui, elle est là. Ouais. C'est elle, là-bas. Donc, Julia et ses collègues ont travaillé sur des modèles murins de la maladie de Parkinson. Hein, Alors, au cours de ces travaux, nous avons observé que, contrairement à ce qu'on pouvait penser, parce que vraiment, ça, on ne le pensait pas, les lines, donc ces éléments, c'est rétrotransposons, hein, ceux-là, hein, les lines, et les ARN PIWI. ARN PIWI sont exprimés dans différentes régions du cerveau. Alors, je reviendrai dans un instant sur ce que c'est que PIWI, mais vous voyez, c'est quelque chose qui était tout à fait inattendu. C'est-à-dire que, vous voyez ici, vous avez le rein, le cœur, les testicules, et là, ce que vous regardez, c'est l'expression des différents éléments mobiles. Là, il y a les lines des différentes familles. Vous avez ici les signs des différentes familles. Chez la souris, vous avez les signs B1, signs B2. Bon, chez les humains, c'est les séquences qu'on appelle ALU. J'y reviendrai plus tard. Et vous voyez qu'en fait, ils sont pas mal exprimés. Ils sont exprimés VTA, substance noire, hippocampe, cortex. Et bon, c'est pas tellement moins que dans le testicule. Hein, alors, dans le testicule, il y a une chose qui est très fortement exprimée, c'est PIWI. Mais ça, on est sur une échelle logarithmique. Alors, PIWI, c'est quoi? C'est une protéine qui fixe un petit ARN qu'on appelle PI. PIWI. pi, pi se fixe à pi oui, et le complexe pi pi oui reconnaît les promoteurs des lines ou des séquences dans les lines, les méthyle et bloque l'expression des lines. Donc quand vous avez du pi oui, vous bloquez l'expression des éléments mobiles de la famille lines pour l'instant. Et quand vous bloquez la famille lines, vous bloquez aussi la famille signs parce que les signs ont besoin des lines pour se reproduire. D'accord ? Donc en fait, quand vous bloquez les lines, vous bloquez quasiment toute la rétrotransposition, sauf les rétrovirus endogènes à LTR, sur lesquels je vous parlerai quand je vous parlerai de la maladie de Charcot. Si j'y arrive. Ce qui n'est pas sûr. Ah bah. Sinon, faut que je trouve un moment, quoi. Donc, ce qui est intéressant dans cette diapositive, c'est que vous avez une différence très faible entre l'expression des lines entre le système nerveux et les testicules, les cellules, les gonades. Vous avez une différence très forte dans l'expression de pi oui. Parce que là, vous voyez, vous êtes à 2 10 puissance 20. Hein, et là, vous êtes à 2 10 puissance 5. Vous imaginez une puissance 15 de différence. Donc, en fait, dans les cellules germinales, ce pi oui, les lines sont probablement là pour fabriquer des pailles RNA, parce que les pailles RNA sont faites à partir des lines. Donc, je ne veux pas vous raconter le système ping-pong parce que c'est trop compliqué. Mais il faut savoir que là, ce que ça veut dire, c'est que probablement le pi oui dans les cellules germinales, il est là pour empêcher la rétrotransposition dans les cellules germinales. Et ça, on comprend bien, parce que si vous avez une rétrotransposition dans les cellules germinales, vous introduisez des mutations dans vos gonades, et vous faites des mutations qui sont des mutations héréditaires. Alors, ça peut être utile. Vous allez voir, je vous montrerai, ça peut être très utile. C'est-à-dire que ça peut sauver l'espèce. Mais c'est vraiment la dernière ligne de défense que de muter à fond la caisse les chromosomes, les gènes de ces cellules germinales pour essayer de trouver un survivant dans une condition, je ne sais pas moi, bombe atomique, par exemple, un truc comme ça. Mais dans le système nerveux où les cellules sont post-mitotiques, à ce moment-là, ou sont en tout cas somatiques, sinon post-mitotiques, somatiques, parce que bon, ça, le système nerveux, ça se construit. Hein. Il y a un moment où les cellules prolifèrent. Là, vous pouvez imaginer que l'expression de ces lines qui introduisent des mutations peuvent faire un mosaïcisme génétique qui, lui, peut être utile. C'est-à-dire que lui peut servir de substrat à une forme d'adaptation. Et c'est ce que pense Gage quand il parle de l'hippocampe. C'est-à-dire quand il fait de la neurogenèse dans l'hippocampe, et qu'il a l'expression de ces lines, il dit « je fais des neurones qui sont très différents, et peut-être que parmi ces neurones très différents, il y en a qui sont très intéressants sur le plan cognitif, par exemple, ou pour une situation X, Y ou Z. » Donc, c'est cette différence entre le rapport entre les pi-oui et les lines, et le fait qu'en fait, ici, on est quasiment la même chose, en parlant des facteurs de 10 puissance 15, suggère très fortement que les lines sont effectivement exprimées et actifs dans le système nerveux. Ils ne sont pas là uniquement pour faire des éléments répresseurs de la transcription comme les pailles RNA. D'accord ? Donc, je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais en gros, quoi, hein, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Enfin, j'espère. Donc, dans le système nerveux, même si une part des lines sert à fabriquer des ARN de type pailles RNA, ce que je ne peux pas exclure, bien entendu, la quantité de pi-oui est si faible en comparaison avec les testicules qu'il est probable que les lines sont actifs, soit qu'ils rétrotransposent, soit qu'ils agissent comme des ARN régulateurs, ce que je vous ai dit un tout petit peu plus tôt, en allant réguler, par exemple, les méthylations des CPG. Et ça, c'est vrai aussi pour les signs, et puis pour les rétrovirus endogènes, sur lesquels je reviendrai quand on parlera de la maladie de Charcot, si on y arrive. Donc, bref, pour revenir au travail de Julia et de ses collègues, ce qui a été observé est que le stress oxydatif, hein, mais ça pourrait être aussi un autre stress, hein. Par exemple le vieillissement, quel stress, ou à l'opposé très tôt la séparation maternelle qui est aussi un stress quand c'est pas un soulagement, entraîne une augmentation de l'expression des éléments mobiles dans les neurones dopaminergiques de la substance noire ou de la BTA bien entendu. Et voilà, donc l'expression moyenne de base, je dirais, de ces éléments mobiles dans ces neurones, peut et a probablement un rôle physiologique. Ça, je pense que c'est. Mais elle peut avoir un rôle pathologique léger. Hein, voilà. On n'est jamais vraiment en bonne santé, on n'est jamais vraiment malade, il y a toujours un petit. Voilà. Physiologique, et pathologique léger. Mais une expression trop forte, je veux dire léger, je veux dire qu'il ne tue pas la cellule, qui la modifie, qui la rend moins efficace, ce que vous voulez. Mais une expression trop forte, évidemment, elle permet de passer un seuil, et c'est un seuil qui induirait la mort du neurone. Rien que ça. Et la mort du neurone du fait, nous le pensons sérieusement, de la coupure du génome à cause des activités endonucléolytiques de la protéine ORF2P, qui est une protéine qui, vous rappelez, fait un nick dans l'ADN pour que l'ARN puisse être rétrotranscrit à partir de ce nick. Il y a un oligo-DT, donc le poly-A de l'ARN se met là, s'hybride, et puis ma reverse transcriptase va me faire un deuxième brin d'ADN, et hop, je vais pouvoir m'intégrer. Donc, il y a une activité ORF2P, c'est une activité qui a à la fois reverse transcriptase, mais aussi une activité DNase, endonucléase. Donc, alors, c'est là que ça se corse, mon affaire. J'ai oublié de vous parler de ça, mais ce n'est pas très grave. Bien que ce soit assez intéressant, parce que c'est un IAP qui vient se balancer dans un intron, c'est un exemple. IAP, c'est donc un rétrovirus endogène. C'est un travail du groupe de Thierry Heidmann, qui est un pionnier, vraiment, dans l'étude des éléments mobiles dans la cancérologie. C'est un ancien neurobiologiste qui a trouvé une sortie vers le cancer. C'est un ancien élève de Jean-Pierre Changeux, à vrai dire, pour rien vous classer. Il a fui, et il a fait de grandes découvertes. Donc, n'en tirez aucune conclusion. Donc, ce rétrovirus endogène est allé se mettre dans un intron, là, et vous voyez que comme c'est un LTR, il y a un site d'initiation de la transcription, et donc on peut faire des protéines différentes. C'est-à-dire qu'il y a ça qui va faire comme ça, mais celui-là, il va nous faire un autre... Il va squeezer l'exon 1, quoi. Voilà. Donc, je vais sauter ça, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment l'insertion d'un élément transposable dans un intron peut avoir des modifications, pour introduire des modifications qui n'entraînent pas la perte de la protéine, mais par exemple une modification ou la naissance d'une nouvelle protéine, d'un nouveau transcrit. Donc, là où ça se corse, je disais... que disais-je, d'ailleurs ? Oui. Là où ça se corse, c'est quand, avec Julia, nous avons montré qu'il y a un facteur de transcription qui s'appelle Engrald, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, qui bloque la mort. Là, je vous raconte des choses du labo un petit peu, parce que comme ça me permet de gagner un peu de temps. Puis c'est plus facile pour moi, enfin, de moins en moins, mais bon, ça allait quand même un petit peu, quoi. Donc, et je continuerai peut-être la semaine prochaine, mais ce qui était montré par cette équipe, c'est quelque chose qui était tout à fait inattendu, en fait. C'est quand vous faites un stress oxydatif sur vos neurones dopaminergiques, et in vivo, hein, ce n'est pas des manips de culture, ben, ce que vous voyez, c'est une augmentation de la transcription des lines. Vous voyez, très rapidement, un stress oxydatif spécifique des neurones dopaminergiques, parce que ça, c'est une drogue qui est oxydative, mais qui est uniquement prise par les neurones dopaminergiques, parce qu'elle est capturée par des sites de capture qui sont exprimés uniquement par ces neurones-là. Donc, par ces gars-là, hein, VTA et substance noire, eh bien, si vous balancez de l'acide SHGA in vivo, tout de suite, vous avez une augmentation d'expression de vos lines. C'est-à-dire que vous aviez déjà des éléments de type mobile élément transcrit. Mais, paf, ça monte. C'est-à-dire que je stresse mes cellules, elles font des lines. Et ça, vous pouvez le voir ici, par exemple, voilà, c'est un anticorps contre ORF1P, donc une protéine de lines. Et vous voyez que si vous faites un stress oxydatif, c'est ici, là, vous voyez qu'il y en a beaucoup plus ici qu'ici. Hein. Et puis ça peut se quantifier, ce n'est pas uniquement de l'imagerie. Ce n'est pas de l'illustration, c'est de la quantification. Hein. C'est une obsession, moi, contre l'imagerie. Je ne sais pas pourquoi, il y a un truc. Et ce qui est le plus amusant, évidemment, c'est que Austin Rickek, qui était l'étudiant donc, de Julia, il a fait un stress. Donc, vous voyez, on perd tous les neurones. Hein, c'est vraiment méchant. Et juste après, il a injecté du Engrald. Alors, Engrald, c'est une protéine hémodomène. Et comme cette protéine hémodomène, elle rentre dans les cellules. Paf. Ça, c'est mon copain Joliot qui a montré ça. Voilà. Donc, ça rentre dans les cellules. Bon, il était avec moi à l'époque, quand même. Je lui ai un peu tenu la main, voilà. Bon, il a tenu la mienne aussi longtemps, hein, pour reconnaître. Donc, c'est... on s'entraide. Donc, donc, ça rentre dans les cellules, ça va dans le noyau, et ça, c'est comme si vous exprimiez le facteur. Mais ce n'est pas la peine de vous l'injecter. Donc, pas besoin de mettre un virus, un machin, un truc, paf, il n'y a qu'à le rajouter. Et, comme vous voyez, vous sauvez le neurone. Et ce que je voulais vous montrer là, c'est que vous sauvez les neurones avec N-Grel, donc ça c'est super sympa, hein, mais vous sauvez aussi les neurones avec OTXE. OTXE qui est exprimé dans la VTA. Hein, et si je vous dis ça, c'est parce que je suis en train de shifter doucement la substance noire motrice vers la VTA psychologique, entre guillemets, d'accord ? Mais l'idée c'est que, de même que pour moi la VTA c'est l'œil du cortex limbique, c'est aussi, d'une certaine façon, le système moteur du système limbique, c'est-à-dire qu'il y a une analogie entre la VTA et la substance noire. Donc, si on arrive à mélanger la VTA et le système limbique, c'est comme si on mélangeait la substance noire et le système visuel. Les gens qui sont dans mon labo comprennent où je veux en venir. Ils ont vu que je n'ai pas totalement abandonné l'idée de continuer à travailler. Donc, et ça, c'est super intéressant parce que, évidemment, ça veut dire qu'on peut sauver ces neurones. Et en fait, on sauve ces neurones dans le cas d'N-Grel. Je ne sais pas si j'ai mis cette diapo. J'ai montré. Là, c'est l'histoire de la même chose. Hein. Là, c'est. Je sauve les neurones avec N-Grel. Donc là, je regarde le nombre de neurones. Vous voyez que, quand même, je les empêche de mourir. Pas totalement. Parce que bon, mettre de la CSHDR dans un neurone, c'est comme mettre une bombe atomique à Clichy sous voie, par exemple. Il ne reste pas grand-chose. Donc, mais si vous rajoutez N-Grel derrière, ça protège quand même pas mal. Et ça restructure la chromatine, d'ailleurs. Mais vous voyez, ça marche aussi avec OTXE. Donc ça, c'est très plaisant. En même temps que si vous supprimez OTX2, ça, c'est un hétérozygote d'OTX2, il n'y a plus qu'un seul allèle OTX2, qu'est-ce qui se passe ? Vous augmentez l'expression des lines dans la VTA. Donc, il y a quelque chose de très proche entre N-Grel, substance noire, et OTX2, VTA, et évidemment, notre but aujourd'hui, c'est de parler des maladies neurodégénératives, Parkinson, et des maladies psychiatriques, et de montrer qu'au fond, il y a quelque chose de très très proche entre les maladies psychiatriques et les maladies neurologiques. Hein, qu'il y a des phénomènes qui sont très proches et qui sont liés au fait que dans les deux cas, ça pourrait être en rapport avec de l'instabilité génétique liée aux éléments mobiles qui sont mobilisés au-delà, au-dessus d'un seuil qui est tolérable sur le plan physiologique. Que ce soit tôt au cours du développement pour les maladies psychiatriques ou tard au cours de la vie pour les maladies neurologiques. D'accord ? Donc c'est un petit peu ça la philosophie du cours cette année. Je sais que c'est toujours un peu confus mes cours, je suis désolé, mais je suis comme ça, quoi. Je suis un peu confus, voilà. Donc, on n'a pas la preuve formelle que OTX2, quand il sauve les neurones dopaminergiques de la substance noire, joue par une répression de l'expression des lignes. On a la preuve formelle pour N-Grel. On a la preuve formelle pour N-Grel. Alors, je vous la montrerai peut-être plus tard, je ne sais pas. Non. Oh là là. Vous allez souffrir la semaine prochaine. Oh. Moi, je serai vous, je ne viendrai pas. Donc, ce qui se passe ici, vous voyez, c'est que j'ai mon... Qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, j'ai un élément transposable qui s'est mis, ou qui est, et qui s'est mis, là, en l'occurrence, entre deux exons. Donc, je vais avoir un signal de polyadénylation cryptique. Je vais arrêter ma transcription trop tôt, parce que je ne vais pas arriver en 3' assez tôt pour avoir ma polyadénylation. Ici, je vais avoir un élément de mobile qui va me donner une transcription, peut-être dans le bon sens, mais c'est ce que j'ai montré tout à l'heure avec le travail de Thierry Heidman, mais aussi peut-être dans le mauvais sens. Parce que comme vous savez, dans les promoteurs des lines, vous avez deux sites de transcription. Un qui va vers ORF0, dont je ne vous ai pas parlé, qui est un exon dont on ne sait pas très bien à quoi il sert, mais qui est de l'autre côté de ORF1 et de ORF2. Mais puis, il y a un site de régulation de l'initiation de transcription qui va dans le sens normal. Donc là, vous pouvez avoir un antisens qui va se mettre en place. Alors les antisens, c'est très intéressant parce que d'abord, il peut bloquer le sens, auquel cas, paf, je bloque la formation de mon gène, mais il peut aussi fabriquer un antisens, fabriquer un ARN antisens. Or, il se trouve qu'il y a plein d'ARN antisens dans le vivant. Personne n'en parle trop parce que c'est un truc qu'on ne comprend pas pourquoi il faut faire des ARN antisens. Mais on fait des ARN antisens. Donc ça, c'est votre mécanisme de fabrication d'un ARN antisens par l'insertion d'un transposon. Vous pouvez avoir une exonisation, c'est-à-dire tout d'un coup, ce type-là, il est reconnu comme... parce qu'il y a des séquences de splicing en 5' et en 3', il va être reconnu comme un exon. Et je vais me faire une protéine alors compliquée parce qu'elle va avoir un exon qui va être un morceau d'éléments transposables. C'est l'oxygénisation. Et puis, ça peut m'attirer des méthyltransférases ou des sites de fixation de H3K9 méthylé, par exemple. Et à ce moment-là, je vais avoir une répression de la transcription qui est liée à la méthylation des CPG ou liée à l'incorporation ou l'attraction d'une histone qui est une histone répressive, comme H3K9 méthyl 3, etc., ou H3K9 méthyl 27. H3K27 méthyl 3. Vous voyez, c'est des choses qui ne sont pas d'une simplicité enfantine. On doit du coup comprendre comment l'expression d'un élément mobile peut réduire, ce que je vous montre ici, l'expression d'un gène qui est physiologiquement important. Ce qui veut dire aussi que les facteurs de transcription, comme NGREL, comme OTX2 ou comme d'autres, je pense qu'en fait, la plupart des protéines homodomaines font ce genre de travail. Et on a quelques éléments dans le laboratoire pour dire qu'il en est bien ainsi. Mais bon, on n'a peut-être pas testé beaucoup, mais on a testé 5 ou 6 et ils font tous plus ou moins la même chose. Ils peuvent modifier l'expression de gènes, non pas directement en se fixant sur leur promoteur, elles le font bien entendu, mais aussi indirectement et de façon plus permanente, épigénétiquement, et là je reviens au travail évidemment de Nestler, en modifiant l'expression d'un élément mobile. Donc, je vais développer ce point important probablement la semaine prochaine. Il faut quand même rappeler que l'expression des éléments mobiles est normalement réprimée, pas totalement, vous l'avez vu, elle n'est pas totalement réprimée, en tout cas dans le système nerveux, il y en a dans son état naturel, chez la souris en tout cas, et que la levée de cette répression, même si elle n'est pas souhaitable, en temps ordinaire, peut le devenir dès lors que l'animal est dans une situation compliquée et qu'une solution est recherchée. Elle n'est pas recherchée volontairement, bien entendu. Alors, soit par l'introduction de mutations, la saltation des gènes introduit des mutations, soit par des modifications épigénétiques plus ou moins permanentes. Donc, il s'agit là d'une adaptation, il faut voir ça comme une adaptation, qui peut permettre une forme de résilience. Ces souris qui ont été séparées de leur maman et qui ont eu des modifications de la méthylation de la forme de gènes, en fait, ça peut être considéré comme une forme d'adaptation à un stress. Même si ça a des conséquences négatives, c'est mieux, peut-être, que de ne pas avoir d'adaptation du tout à un système comme ça. Donc, c'est une adaptation qui permet, je pense, une forme de résilience, si on pense à un stress. Et ça, ça nous rappelle l'affaire des mouches. Vous vous rappelez les mouches à gel d'anamycine ? Vous ne vous en souvenez pas, parce que c'est un cours que j'ai dû vous faire en 2008 ou en 2009, mais... Je vais vous le rappeler dans un moment, parce que c'est un cas extraordinaire d'adaptation, d'évolution d'une espèce par la mobilisation d'éléments mobiles, non pas au niveau de cellules somatiques, mais au niveau des cellules germinales. Et ça, je pense que c'est un des plus jolis. Donc, vous êtes fatigué ? Vous n'êtes pas fatigué ? Putain, vous êtes bon, Donc, je vous donne encore un petit quart d'heure, d'accord ? Donc, je vais commencer par quelque chose d'un petit peu compliqué, comme si on se le met derrière nous, et la semaine prochaine, on peut démarrer sur un truc relativement simple et amusant, d'accord ? Donc, on va commencer par les modifications épigénétiques, donc, à travers deux figures. C'est celle-là, qui est relativement simple, celle-là. Celle-là, c'est celle qui vous montre, j'étais plus vite que mon texte, comment l'insertion d'un élément mobile peut avoir ces conséquences que je viens de vous raconter. Mais il y a aussi la possibilité pour un élément mobile ou un fragment d'élément mobile, parce que je peux transcrire, je peux ne pas aller jusqu'au bout, je peux rétrotranscrire et je ne peux ne pas aller jusqu'au bout. D'aller s'hybrider avec un élément mobile complet ou lui-même incomplet hein, qui est inséré dans le génome. Hein. Donc je vous rappelle que 45% du génome humain, mais chez la souris c'est pareil, hein, est constitué de tels éléments. Donc on trouve toujours un élément mobile quelque part dans le génome, il y en a partout. Hein, c'est 50% du génome, le soi-disant junk DNA, vous imaginez. Et de ce fait, en s'hybridant à ces éléments mobiles internes, à les réguler, l'expression des gènes. Donc, si je reviens, je remercie Rajiv Joshi, qui est aussi une figure de mon laboratoire, un laboratoire qui est plein de gens tout à fait intéressants. Hein. Il m'a filé deux diapos que j'ai rien compris, mais j'ai essayé, comme vous, de comprendre. Merci Rajiv, vraiment. Hein. Il ne faut pas dire qu'il s'acharne à me faciliter la vie dans ce laboratoire. Enfin bon, je les regretterai quand même. Donc, là, c'est assez amusant parce que ça, c'est des gènes, vous voyez. Si vous lisez bien, vous avez COL 8 à 1, vous avez SEMA3C, vous avez PAX6, et puis ici, vous allez avoir WNT1, THBS4 et RBP3. Ça doit vous dire quelque chose, c'est que c'est les 6 gènes qui sont régulés dans la VTA, quand je baisse au TX2. Et donc, mon idée, quand même, c'est que quand je baisse au TX2, j'ai plus de lines, ou plus d'éléments mobiles, et que ça, ça va aller hybrider avec des transposons qui sont insérés dans ces gènes, et que ça va, c'est ça qui va induire les méthylations. C'est là que je veux en venir. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que si j'ai des éléments mobiles qui sont insérés de façon permanente dans ou à proximité de ces gènes cibles, si mon transposon, parce que OTX2 baisse, est transcrit et vient s'y mettre, ça va me recruter des DNA méthyltransférases, par exemple, ou des histones méthylées répressives. Donc c'est un petit peu ça le modèle qu'on a dans la tête. Pas tout seul, hein, les gens du labo l'ont aussi. Et donc ce que j'ai demandé à Raju, c'est de... Raju, c'est Rajiv Joshi, c'est d'aller regarder sur Internet si dans les gènes, qui sont les gènes cibles, donc réprimés par OTX2, il y a à proximité des séquences intégré dans le génome de lines, de signs, de RV, enfin de n'importe quel élément mobile. Et en fait, ce que vous pouvez voir ici, c'est les familles d'éléments mobiles qui sont là. Et effectivement, vous voyez, on est bourré en fait, de séquences de ce type à proximité de ces gènes qui sont régulés de façon épigénétique par la baisse transitoire de TX2. Et ça, c'est vrai pour COL, pour SEMA3, pour PAX6, pour WNT1, pour THBS4 et pour RBP3. Hein, vous voyez ici, c'est un rétrotransposon LTR, ça c'est un line, etc. Ce sont des fragments. Hein. Mais ils sont insérés dans le gène ou à proximité du gène. Et ça, évidemment, ça peut induire à la fois des mutations, ou des méthylations, ou des répressions. Ça peut aussi induire des modifications de la structure de la chromatine. Et ça, c'est très important parce que si vous avez des lines qui sont exprimées à différents endroits, ou si vous allez... Par exemple, vous avez deux lines, par exemple, si vous avez deux signs, c'est connu, ils peuvent s'hybrider et faire une boucle. D'accord ? Maintenant, si je viens bloquer l'interaction entre ces deux signs en mettant un élément, un ARN qui va empêcher cette interaction, je peux changer la structure de ma chromatine. Soit je peux l'ouvrir. Je peux donner accès à des endonucléases. Donc j'ai tout un effet à la fois sur la transcription, mais aussi sur la structure de ma chromatine, qui peuvent être extraordinairement importants à la suite d'une simple up-regulation, augmentation d'expression des éléments mobiles, parce que j'ai baissé au TX2, ou parce que j'ai eu un stress oxydatif, comme je vous l'ai montré dans le cas de la 6-hydroxydopamine qui est balancée sur les neurones dopaminergiques. Donc, il faut voir ces éléments mobiles comme des éléments essentiels, nous le pensons, hein, je pense que les gens dans le labo pensent comme moi, des éléments essentiels de la régulation de la structure de la chromatine, mais aussi de l'expression des gènes. Et c'est ce sur quoi je continuerai la semaine prochaine. Voilà, et je vous remercie. Et je vais voir si je peux trouver 2 heures de plus.